allons continuer cet effort de comprendre la personne, la personnalité, la personne, parce qu'au fond, de fait, les deux, selon Marc Scheller. Et par là, voir mieux ce que le Saint-Père dit dans son livre. Je crois que c'est là où on le saisit le mieux. Il faut essayer de comprendre, de fait, hein, quand vous regardez la position de Husserl, qui est d'une certaine manière plus philosophique, c'est-à-dire plus rigoureuse, si j'appelle philosophique ce qui est rigoureux, plus rigoureuse et par le fait même aussi beaucoup plus enfermée uniquement sur l'intentionnalité. Dans Max Scheler, il y a un souci, c'est très net, de comprendre le point de vue de la personne avec beaucoup plus de réalisme. Il y a un réalisme plus grand chez Max Scheler, qui est plus facile à concevoir parce que la méthode est moins rigoureuse. C'est encore une méthode descriptive, c'est évident, comme pour le point de vue de Husserl, mais c'est une méthode descriptive qui sera peut-être plus facile à comprendre. Et au fond, quand vous regardez chez le Saint-Père, vous voyez que cette méthode descriptive est très proche d'une méthode descriptive telle que nous la concevrions en aristotélisme. Parce que le souci du Saint-Père est sûrement de maintenir un pont entre la philosophie de Max Scheler, dont il a été très marqué, et puis saint Thomas. Alors, jusqu'où pouvons-nous faire ce pont? Comment pouvons-nous faire ce pont? C'est là la grosse question. Il ne faut pas vouloir nécessairement toujours vouloir unir. Mais dans la mesure où on peut le faire, il faut le faire. Et c'est là la difficulté. Pas tomber dans un éclectisme, dans une position. La position éclectique peut très facilement devenir apologétique, ce qui est agaçant au point de vue philosophique comme au point de vue théologique. Et d'autre part, on doit essayer de comprendre les intentions profondes. Sûrement qu'il y a chez Husserl, surtout le second Husserl, ça c'est des discussions à n'en plus finir, hein, parce que certains Husserliens n'acceptent pas la distinction entre le premier et le second. C'est des choses historiques et des interprétations historiques qui sont intéressantes, mais qui sont tous les inédits de Husserl, qui sont pour vivants, du reste, et tous les inédits de Husserl montrent que à la fin de sa vie, Husserl a eu un souci beaucoup plus de rejoindre le point de vue ontologique, beaucoup plus qu'au début. Et c'est ce qui explique, comme on peut dire, un premier Merleau-Ponty, un second Merleau-Ponty, un premier Heidegger, un second Heidegger, ça fait très bien. Premier Isaïe, un second Isaïe. Mais ça fait très bien. Ça fait, et même trois peut-être. Alors ça fait partie des divisions qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on veut tout le temps que les gens évoluent. Vous n'êtes intelligent que si vous évoluez. C'est la seule manière de voir que vous êtes intelligent. On oublie que l'intelligence n'évolue pas, mais que l'intelligence pénètre toujours plus avant. Ce n'est pas une évolution de l'intelligence, c'est une pénétration. Je peux très bien considérer le premier saint Thomas, le second saint Thomas. Premier saint Thomas, commentateur des sentences, le dernier saint Thomas, la somme. Et il est évident, quand vous regardez attentivement, vous voyez que ce n'est pas une évolution, mais vous voyez que c'est une pénétration. C'est-à-dire un effort d'analyse plus grand. Et je crois qu'au fond, c'est ça. Ce qui était regardé dans les sentences d'une manière assez descriptive est pris dans la somme d'une manière beaucoup plus d'analyse. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant de faire ces remarques-là, beaucoup plus que l'évolution. Eh bien, je crois que c'est un peu la même chose chez Husserl, c'est qu'il y a un souci, je ne dis pas d'une analyse, mais de retrouver le fondement. De retrouver sur quoi ça se fonde. Comme la finalité est perdue, c'est le fondement qui prend tout. Et je crois que c'est ça les limites de leur recherche. Que la finalité est perdue. Mais quand on parle de l'acte, est-ce que c'est encore la finalité? C'est la grosse question. Est-ce que c'est l'acte métaphysique? Est-ce que c'est l'énergéia, ou est-ce que c'est l'entelé qu'il y a? Et je crois que c'est toujours l'entelé qu'il y a, c'est-à-dire c'est toujours le point de vue de la vie et non pas le point de vue de l'être. C'est l'acte au niveau de la vie. Et bien, je crois que chez Max Scheler, comme chez Husserl, c'est ce qu'on découvre. Et on ne découvre pas au sens strict une métaphysique, mais on découvre la vie de l'intelligence. Et c'est cet aspect de la vie de l'intelligence qu'on découvre. Alors, ce n'est pas l'intelligence liée à l'être, mais c'est l'exercice vital de l'intelligence. Et c'est cet exercice vital de l'intelligence qu'on essaie de découvrir. Vous voyez? Ce n'est pas le point de vue métaphysique. Je ne crois pas. Alors, je continue. Quels sont pour Scheler les rapports de la personne et de la conscience, hein? Je reprends un tout petit peu pour que nous reprenions. Si l'on entend par conscience tout ce qui apparaît comme phénomène dans la perception interne, il faut alors définir la personne et ses actes comme une existence supraconsciente. Oui, ça c'est très important parce que ça montre bien qu'il a le souci de définir la personne comme une existence supraconsciente. Et uniquement ça montre qu'il a le souci métaconscience, le souci de découvrir le sujet fondamental au niveau ontologique. Donc, il faut alors définir la personne et ses actes comme une existence supraconsciente en face de laquelle les phénomènes de conscience eux-mêmes se divisent de leur côté en phénomènes surconscients ou subconscients. Mais si l'on désigne par conscience tout ce qui est conscience de quelque chose, et si l'on entend par conscience de quelque chose, sans rien présupposer concernant le fondement de cette conscience, tous les actes intentionnellement orientés et tirant leur sens de cette intentionnalité, alors on est en mesure et en droit de définir la personne comme la conscience concrète d'eux. C'est pas commode, hein, cette distinction. Parce que conscience d'eux, c'est l'intentionnalité à l'égard de l'objet. Et il avait dit avant, si l'on entend par conscience tout ce qui apparaît comme phénomène dans la perception interne. Donc il faut discerner dans la conscience deux aspects. Vous voyez, c'est là la très grosse difficulté, parce qu'alors dès que vous êtes dans le langage courant, qu'est-ce qui distingue aujourd'hui le point de vue de la conscience? Tous ces problèmes-là ont été secoués et repris très fort au moment des discussions sur le point de vue, la manière dont on pouvait l'avortement. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est une personne qu'on tue ou pas? Ben, il y a eu à ce moment-là, ceux qui ont suivi la question, ils ont vu que dans les études, il y avait des articles extrêmement intéressants de certains théologiens qui disait « Non, il n'y a pas de personne puisqu'il n'y a pas conscience. » Alors, on définit la personne avec la conscience. Et ceci, dans une ligne phénoménologique. Et vous voyez que Marc Scheler fait une distinction qui est subtile et qui est intéressante à ce point de vue-là. Et c'est peut-être cela qu'on doit essayer de comprendre. Il montre que, là, je crois que ça demanderait à réfléchir, ça, ce qui n'est pas... C'est difficile à bien saisir. Si l'on entend par conscience tout ce qui apparaît comme phénomène dans la perception interne, alors je dirais c'est la conscience psychologique. Je crois que c'est exactement ça, la conscience psychologique. Vous avez conscience d'être ici. Moi, j'espère. D'écouter un cours. C'est conscience psychologique, ça. Puis tout d'un coup, vous rêvez. Je pars en Chine. Je rêve, je suis parti. Alors ça, c'est la conscience psychologique qui, de temps en temps, décolle. Alors est-ce que votre personnalité décolle à ce moment-là? Pas du tout. Vous êtes toujours la même personne assise sur le bureau. Très bien. Alors ça, c'est la première conception de la personne, conscience psychologique. Mais si l'on désigne par conscience tout ce qui est conscience de quelque chose, vous voyez comme c'est difficile. Conscience de quelque chose. Donc, vous avez conscience conscience, j'allais dire réflexion sur mon activité. C'est presque la lucidité, ça. Je suis lucide. Oui, lucidité psychologique. Tandis qu'au contraire, l'autre, c'est conscient d'eux. Vous voyez, je prends réflexion sur le sujet connaissant. Sur le sujet qui a conscience, qui est lucide, de poser tel acte. Le sujet vivant. J'ai conscience de manger. J'ai conscience de dormir. Alors, j'ai conscience. J'ai conscience, attitude réflexive. Conscience d'eux. Alors, je précise, parce que ça, je pourrais avoir ces termes, pas les... Si l'on désigne par conscience tout ce qui est conscience de quelque chose, et si l'on entend par conscience de quelque chose tous les actes intentionnellement orientés et tirant leur sens de cette intentionnalité, orientés, ils tirent leur sens de cette intentionnalité, alors, on est en mesure et en droit de définir la personne comme la conscience concrète d'eux. Ce n'est pas un niveau psychologique, c'est le niveau, je dirais, de la vie d'esprit. C'est beaucoup plus l'esprit. Puisque cette conscience d'eux est orientée vers une fin, vers un objet. Conscience de cette fin, je suis orienté vers cette fin. J'ai conscience de finaliser ma vie. J'ai conscience d'orienter ma vie de telle ou telle manière. Et c'est plus que la conscience psychologique. Ça va plus loin. Est-ce que cette conscience est toujours une conscience psychologique? Pas toujours. Il y a une orientation. Peut-être ça qui nous fait. C'est l'intentionnalité. Mais ça demeure au niveau de l'intentionnalité. Ça, il le dit textuellement. Ce n'est pas encore le point de vue métaphysique, c'est le point de vue l'intentionnalité, l'orientation intentionnelle. Cette orientation intentionnelle est fondement de cette conscience psychologique. Elle est plus radicale. Et c'est pour ça qu'il dit que cette conscience peut connaître le surconscient et le subconscient. Alors, on est en mesure et en droit de définir la personne comme la conscience concrète d'eux. Scheller fait observer que cette définition serait illégitime si, à la manière de Descartes, on réduisait la conscience de quelque chose au simple cogitare, en supposant qu'amour, haine, perception affective, vouloir ne reposerait que sur la liaison à un corps propre de la personne, ainsi défini comme res cogitans. D'autre part, il souligne que si la personnalité n'était qu'un concept basé sur le « je », en quelque sens que l'on entende, ou encore sur le « je » transcendantal, ou sur une conscience en général, ce serait une conscience, ce serait un contresens que de parler de vérité personnelle. Il ajoute, le jeu de Fichte et les formes modernes nombreuses qu'il a prises, mais même déjà la perception transcendantale de Kant, qui présente un sens infiniment plus profond et plus prudent, aboutissent également à dissoudre la rigoureuse objectivité de l'idée de vérité et ne sont que les premiers pas sur une voie qui conduit finalement à l'enlisement pragmatiste de toute philosophie. Vous voyez la question, il veut sauver la personne de la perspective de Descartes et de Kant. En comprenant que si nous continuons la perspective de Kant et de Descartes, c'est un enlisement de pragmatique de toute philosophie. C'est ça qui est intéressant, puisque nous sommes dans une philosophie de l'intentionnalité. Dans une philosophie de l'intentionnalité, l'intention du philosophe joue un rôle très important. Et plus, évidemment, que dans une philosophie aristotélicienne, où on est en face de l'analyse. Donc l'intention de dépasser Kant et de dépasser Descartes me semble très intéressante pour essayer de saisir le jeu personnel. Parce qu'au fond, c'est le jeu. Le jeu de la conscience de, à travers les diverses opérations, les diverses orientations. Alors, c'est difficile, hein, faut pas si commode que ça. Moi, j'avoue que de temps en temps, on croit saisir, et puis tout d'un coup, au tournant, on se dit, mais c'est peut-être pas tout à fait ça. La conscience de soi et la conscience de sa valeur propre ne suffisent pas pour qu'il y ait personne. Pourquoi? Parce que ça, ce serait la conscience réflexive. J'ai conscience de mon activité. Ça, c'est pas ça, la personne. La conscience de soi et la conscience de sa valeur propre ne suffisent pas pour qu'il y ait personne. Et le simple fait d'être homme en tant qu'homme ne suffit pas non plus à déterminer le cercle des essences qui peuvent être tenues pour des personnes. Ça, c'est plus grave. Donc l'homme ne suffit pas à personne. Il y a une émergence au-dessus. Mais homme, c'est la nature. On dirait ça. On est nous qui essayons de définir. Et ça derrière, parce que je crois que ça joue tout le temps. Je crois que toute cette question qu'on essaie de voir de multiples manières, au fond, se ramène toujours à cette vision aristotélicienne et celle de Saint Thomas entre le point de vue de la nature et de l'esprit. Là, je crois que c'est cette émergence de l'esprit qui fait la personne. C'est dans la mesure où vous saisissez ce que c'est que l'esprit, vous pouvez dire qu'il n'y a personne. Tant qu'il n'y a pas émergence de l'esprit, il n'y a pas personne. C'est délicat, vous comprenez. C'est les deux conceptions de la personne que nous avions vues chez saint Thomas, le dominium sui et la personne au point de vue métaphysique. Au fond, si vous voulez, on revient toujours à cette conception. Y a-t-il possibilité de définir la personne au niveau proprement philosophique premier et au niveau éthique? Est-ce que la définition de la personne n'a-t-il pas nécessairement les deux? Ça nous aide à mieux comprendre. Je crois que la personne implique nécessairement l'éthique et doit se regarder en métaphysique. Elle implique l'éthique. Parce qu'une véritable philosophie première ne peut pas se séparer de l'éthique. Elle se distingue de l'éthique, mais elle l'assume. Et l'éthique assume la philosophie première. Les relations sont mutuelles. Les relations sont mutuelles. Il y a un va-et-vient continuel entre les deux. Je ne peux pas définir la personne uniquement au niveau philosophie première. Je ne peux pas définir la personne uniquement au point de vue éthique. C'est pour ça que je dis, c'est le pose de la philosophie première. Si c'est le pose, le comment de la philosophie première, ça implique l'éthique. C'était uniquement au niveau principe. Ça pourrait être philosophie première, uniquement. Mais dès que je dis que c'est un comment, ça implique le comment de ma substance individuelle. Alors à ce moment-là, l'éthique est impliquée dedans. Et c'est ça, je crois, important. Et c'est ce qui explique cette espèce de pathos, hein, très très bien, mais c'est de saisir des deux façons. Alors, je crois qu'ici, ce petit texte que je viens de vous lire, est intéressant pour nous faire comprendre qu'il veut souligner qu'il y a dans la personne quelque chose de transcendant. Vous voyez ? Orientation, conscience de, c'est le dépassement. Tandis que quand il nous dit ceci, la conscience de soi, la conscience de sa valeur propre ne suffisent pas pour qu'il y ait personne. Le simple fait d'être homme en tant qu'homme, Est-ce que ce n'est pas la nature? Est-ce que nous ne traduirions pas ça? La nature, tout simplement. Le simple fait d'être homme en tant qu'homme ne suffit pas non plus à déterminer le cercle des essences qui peuvent être tenues pour des personnes. En réalité, ce n'est qu'à partir d'un certain niveau d'existence humaine que le concept de personne trouve son application. Le lieu où éclate à nos yeux l'essence de la personne ne doit pas être cherché dans l'homme en général, mais dans une certaine sorte d'homme. La plupart des hommes demeurent au niveau de nature. Ne vous trompez pas du tout. La plupart des hommes, ils ne sont pas des personnes. Alors, vous voyez l'équivoque un tout petit peu entre ce qu'on appellerait une personnalité, c'est très juste au niveau de la personnalité. C'est très vrai au niveau de la personnalité, mais il faut une émergence. Si vous restez au niveau de la nature, vous restez au niveau générique de la personne humaine, de l'homme en tant qu'homme. C'est pas parce que vous êtes un homme, vous voyez, équivoque, du moins, je dirais, de notre manière de parler, équivoque entre ce qu'on appellerait la personnalité. Il y a peu d'hommes qui ont une vraie personnalité. C'est vrai. Ils dépassent un tout petit peu le point de vue de la nature. Leur esprit est assez endormi. Alors leur esprit, ils ont une finalité générique. Ils ont une finalité au niveau de la nature. Ils n'ont pas une vraie finalité personnelle. Pour qu'il y ait une personnalité, il faut qu'il y ait une finalité personnelle. S'il n'y a pas une finalité personnelle, vous retombez dedans. Alors, ce que nous dirions, une personnalité, oui, l'éthique. C'est pour ça que les deux liens me semblent très importants à saisir. Et il me semble que dans ce langage, si on essaie de le comprendre, il y a une manière de le saisir qui est juste. Mais il y a une manière en même temps de le saisir qui ne serait pas juste. Parce qu'alors vous pourriez dire à ce moment-là, au fond, seuls ceux qui ont une personnalité ont une personne. Tout le reste, hein, c'est le gros de la foule, la masse qu'on manœuvre comme on veut, la masse qui descend dans les rues et qu'on manœuvre comme on veut. Bon, on en a par-dessus la tête, tout ça. Non, c'est la masse. Alors, psychologie des groupes. C'est le troupeau. Il suffit d'avoir quelques bons chiens de garde pour que le troupeau aille droit, ça y est. Alors, ça, c'est la masse, il n'y a pas de personne. Vous voyez comme c'est grave, si on dit ça. Parce qu'alors, on peut vous, très bien. Un de moins, un de plus, ça n'a pas grande importance dans la masse. Donc, si on voit quelqu'un à une tête d'imbécile, très bien, il n'a qu'à disparaître. Il n'a pas de personnalité. Et on ne fait qu'un choix de personnalité. Je crois que c'est ça qui est impliqué dedans. Et ça c'est intéressant parce que ça montre que le point de vue nature et esprit reste tout le temps. L'homme, sous de multiples manières, peu importe comment il saisit l'homme, il s'aperçoit de la complexité de l'homme. Il s'aperçoit que dans l'homme, c'est tellement difficile d'unir le point de vue de la nature, qu'on regarde, et puis le point de vue de l'esprit. Que c'est difficile de préciser comment il y a une personne enraciné dans la nature, et que d'autre part, la personne implique l'esprit. Alors, c'est au fond tout le problème de la personne. C'est vraiment ça le problème de la personne que nous aurons à essayer de préciser ensuite. Hein. Nous sommes actuellement pour montrer la complexité de ce problème et de voir comment, au fond, toutes les philosophies se heurtent à ça. Alors, elles le traduisent de diverses manières. En réalité, donc, ce n'est qu'à partir d'un certain niveau d'existence que le concept de personne trouve son application. Le lieu où éclate à nos yeux l'essence de la personne ne doit pas être cherché dans l'homme en général, mais dans une certaine sorte d'homme. Pour être une personne, l'homme doit être sain d'esprit. Et avoir atteint un certain niveau de développement, oui, c'est ce qu'on appellerait personnalité. Je crois que là, c'est net. Un homme handicapé, oui, c'est pas une personnalité. C'est pas une personne. Donc, pour être une personne, l'homme doit être sain d'esprit et avoir atteint un certain niveau de développement. Un petit enfant, c'est bien, un petit enfant présente les phénomènes de l'égoïté, de l'animation, de la conscience de soi. Cela ne suffit pas à faire de lui une personne morale. Alors là, on y est, une personne tout court, vous voyez. C'est ça la difficulté. Personne morale, je suis tout à fait d'accord. C'est évident, personne morale. Mais personne. Alors, le niveau métaphysique et le niveau moral ne sont pas assez distingués. Vous direz aussi, personne parfaite implique la personne morale. Bien évident. La personne parfaite et la personne métaphysique dans son fondement. Un petit enfant, c'est une personne en promesse. Mais c'est une personne métaphysique. Il y a une âme spirituelle. Mais il n'y a pas le dominium, c'est évident. Il est égoïste à un point, et ça restera même en sortant du verso. Alors, on retrouvera ça, l'égoïté, l'animation, la conscience de soi, cela ne suffit pas à faire de lui une personne morale. En troisième lieu, pour être une personne, l'homme doit avoir acquis la domination sur son corps propre. Dominer sa propre activité. Être capable de dominer, c'est donc c'est l'éthique, ça. Hein? Acquis ça, la domination sur son corps propre et se sentir, se vouloir et se vivre lui-même immédiatement comme le maître de son corps propre. La maîtrise de soi. Reste ici. Enfin, il faut distinguer de la façon la plus rigoureuse l'idée de personne de toutes les idées fondées sur les phénomènes d'expérience vécue, comme celui d'âme, substance, de caractère. Alors là, on évacue. Enfin, il faut distinguer de la façon la plus rigoureuse l'idée de personne de toutes les idées fondées sur des phénomènes d'expérience vécue. Ça, c'est assez curieux. Hein. Le phénomène d'expérience vécue comme celui d'une âme-substance. Ce n'est pas une expérience vécue. L'âme-substance. Et c'est là la confusion. Et là, vous voyez bien. L'expérience, pour lui, l'âme-substance, c'est une expérience vécue du jeu, de la conscience de soi. C'est pas ça. Là, il y a confusion. Il y a une confusion très nette entre les deux. Ou de caractère, et la conscience. Le caractère, c'est le phénomène vécu, ça c'est tout à fait d'accord. On ne peut pas identifier la personne avec un caractère. Ce n'est pas parce que vous avez un sale caractère que vous n'êtes pas une personne. Au contraire, souvent les personnalités ont un sale caractère. Hein. Ça existe, ils sont dit habituellement, parce que ça se manifeste davantage. Alors on voit plus davantage le caractère de la personnalité par ce point de vue-là. C'est vrai. Quelqu'un qui a une intention de vie très déterminée n'hésite pas à bousculer. Il faut bousculer. Tandis que celui qui n'en a pas, mouton de panure, oh, ce qu'il est doux. Ah oui, ce qu'il est doux. C'est-à-dire que c'est un mouton de panure, il n'a aucun caractère. Donc il est d'une douceur parfaite. Mais ça, c'est pas une personne, c'est la mollasse. Mais ça, c'est pas une personnalité, c'est quelqu'un qui est tout simplement la spiritualité de celui qui descend le fleuve. Tandis que celui qui remonte le fleuve, ah, c'est dur, c'est dans la lutte. Personnellement, vous voyez, il a une orientation. On voit beaucoup mieux. Au fond, c'est ce qu'on appellerait, nous, une finalité. Mais comme lui, le concept de fin n'est pas précis, il dit simplement conscience de. En réalité, c'est la finalité. C'est la finalité de l'esprit. À ce point de vue-là, c'est juste. Tant qu'il n'y a pas finalité, il n'y a pas de personne. Dans le sens de Marc Scheller, nous dirions tant qu'il n'y a pas de finalité, mais s'il y a métaphysiquement une âme spirituelle, il y aura peut-être éclosion de cette finalité. Alors, on distinguera les manifestations de cette finalité et la finalité elle-même. Quelquefois, on peut avoir une finalité sans la manifester. C'est un point de vue très délicat. Ne jugez pas sur les apparences. La notion de caractère, entendant par là les dispositions durables d'une personne, dispositions volontaires, spirituelles, intellectuelles, n'a rien à voir avec l'idée de personne. C'est bien évident, c'est du conditionnement. Ça, c'est juste. Tout ce qu'enseigne la psychiatrie concernant les altérations du caractère dans certaines affections mentales ne saurait jamais concerner, fût-ce dans les cas les plus graves, la personne même d'autrui. La psychiatrie ne peut rien nous dire sur la personne. Olivier, c'est le caractère, c'est le conditionnement, c'est les humeurs. C'est les humeurs, donc ça ne peut pas nous dire. Vous avez des humeurs morbides, vous avez des humeurs optimistes, vous avez vous décollez par rapport au réel, très très bien tout ça. C'est pas la personne. La personne consciente de orientation vers. Et ça, c'est bien l'esprit qui émerge de la nature. Donc, je continue de vous citer ce texte du Cerf. Donc, tout ce qu'enseigne la psychiatrie concernant les altérations du caractère dans certaines affections mentales ne saurait jamais concerner, fût-ce dans les cas les plus graves, la personne même d'autrui. Ce qui a disparu dans ce cas, c'est simplement l'être donné pour autrui de sa personne. C'est-à-dire la manifestation, la capacité de rencontrer un autre. Il peut se faire qu'il y ait une inhibition telle que, de fait, la personne ne rencontre plus personne d'autre. Ça ne supprime pas la personne. Vous voyez, comme c'est délicat. Hein? Autrement dit, il ne définit pas du tout la personne par la rencontre avec un autre. C'est vraiment conscience de l'orientation vers une finalité. Donc, ce qui a disparu dans ce cas, dans ce cas, d'une maladie psychologique grave, des affections mentales qui vont très loin. Ce qui a disparu dans ce cas, c'est simplement l'être donné pour autrui de sa personne. La seule chose qu'on puisse dire dans les cas extrêmes, c'est que la maladie a rendu finalement la personne parfaitement invisible, totalement inhibée. La marmotte. On doit tous, de temps en temps, se demander s'il y a encore une personne ou pas. Complètement invisible. Et qu'on ne peut plus porter aucun jugement sur elle. Mais cela même, nous ne pouvons le dire que parce que nous continuons à supposer, derrière ces altérations du caractère, l'existence d'une personne que ces altérations n'affectent pas. Vous voyez, c'est vraiment le dépassement d'un point de vue psychologique. Ça, c'est très très net. C'est le dépassement. Donc, c'est plus que ce que nous appelons, nous, habituellement, personnalité. Mais ce n'est pas non plus la personne métaphysique. Donc, c'est entre les deux. C'est une zone intermédiaire qu'il essaie de définir. Ce n'est ni la métaphysique, ce n'est ni le point de vue proprement psychologique. Je crois que c'est beaucoup plus ce qu'on appellerait le point de vue éthique. Beaucoup plus simple, c'est l'intentionnalité à l'égard d'une femme. Alors, cette intentionnalité à l'égard d'une femme peut très bien être totalement inhibée en fonction de la maladie. En fonction de la maladie, on ne voit plus du tout cette intention se manifester. Mais on n'a pas le droit de dire qu'elle n'existe pas. On peut dire qu'elle est invisible, qu'elle ne se manifeste pas. Je n'ai pas le droit de porter ça. Donc, ça va beaucoup plus loin qu'un point de vue purement psychologique d'une personnalité, puisque c'est un dépassement du caractère, c'est un dépassement du conditionnement psychologique pour essayer de saisir cette conscience de lui. Ça explique bien ce point de vue-là. C'est ça qui m'intéresse. Mais en réalité, c'est l'orientation vers une fin. Donc, c'est bien l'esprit qui veut saisir. C'est bien ça qui veut saisir. Au-delà du conditionnement et du caractère. La personne est transcendante à toute psychologie. Et il n'est aucune psychologie qui, pour constituer son objet, ne commence précisément par faire abstraction de la personne. Ça, c'est très intéressant. Quand je vous ai dit que la psychologie ne peut pas atteindre l'amour, il dit la même chose. Parce que si la personne, c'est la conscience d'eux, la conscience la plus fondamentale d'eux, c'est à l'égard du bien. Donc c'est l'amour. L'intentionnalité la plus radicale, c'est cet amour spirituel. C'est cet amour spirituel qui lui dit à mon bien, qui lui dit à ma fin. Et c'est ça qui constitue pour lui la personne. Oui. Donc c'est un au-delà du point de vue psychologique. La personne est transcendante à toute psychologie et il n'est aucune psychologie qui, pour constituer son objet, ne commence précisément par faire abstraction de la personne. La psychologie ne peut pas atteindre l'orientation à l'égard de la fin. Voilà ce qu'il veut dire à l'égard de la conscience d'eux. La conscience d'eux est au-delà du point de vue psychologique, parce que le point de vue psychologique, c'est le comportement. Et ça, c'est tout à fait juste. Si dans la perspective kantienne, c'est la rationalité d'une conduite conforme à la loi qui permet de parler de personne, ça c'est juste pour Kant. Hein? Donc si dans la perspective kantienne, c'est la rationalité d'une conduite conforme à la loi qui permet de parler de personne, chez Max Scheler, au contraire, la personne est condition de toute moralité. Oui, alors ça c'est pour ça l'éthique. Tout à l'heure, quand j'ai dit qu'on est au niveau de l'éthique, on est un peu plus, puisque c'est la condition née, c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait éthique. C'est la condition sine qua non pour qu'il y ait orientation. Vous retrouvez le transcendantal, hein? La source. Ce n'est pas la métaphysique, mais c'est la condition sine qua non. La métaphysique se réduit à la condition sine qua non. Alors quand je dis que la métaphysique se réduit à la condition sine qua non, je veux dire que la métaphysique se résume à un X. Parce que la condition sine qua non, vous ne la saisissez pas. Vous n'en saisissez pas le contenu, ce n'est pas du tout comme une source. Et nous le dirions que l'éthique se fonde radicalement sur l'âme spirituelle. Donc elle se fonde sur la substance individuelle, métaphysique, forcément. Il n'y a pas d'éthique s'il n'y a pas ce fondement radical. Pour lui, il dirait, il n'y a pas d'éthique s'il n'y a pas de personne. Et la personne est la condition sine qua non. Or, la condition sine qua non, c'est tout simplement ce qui est antécédent. Je ne précise pas ce que c'est. Ce qui ne veut pas d'âme spirituelle. Il considère que l'âme spirituelle, c'est justement quelque chose qui est du vécu. Oui. C'est intéressant parce que c'est au fond un essai de retrouver une métaphysique. C'est très maladroit. Hein? Donc, chez Max Scheler, au contraire, la personne est condition de toute moralité. Ce qui est le support des valeurs, bon ou méchant, avant tous les actes singuliers et indépendamment d'eux, c'est la personne. Oui, c'est le support des valeurs. Donc on retrouve l'idée du sujet. C'est la personne, c'est l'être même de la personne. Elle dit l'être même de la personne. Donc, sans me donner une métaphysique, il parle de l'être même de la personne. Antérieurement à toute éthique, il y a l'être même de la personne. Et l'être même de la personne, c'est la condition sine qua non pour qu'il puisse y avoir un acte de conscience d'eux, donc une orientation vers la finalité. Bon et méchant sont des valeurs de personne, c'est-à-dire des valeurs qui affectent immédiatement la personne même, et toute valeur, y compris toutes les valeurs réelles possibles, ou réelles possibles, les choses de valeur, comme les biens matériels et spirituels, ainsi que toutes les valeurs appartenant à des communautés et à des structures organiques impersonnelles, est subordonnée aux valeurs de la personne. la valeur de la personne elle-même et la valeur des valeurs. On commence à voir du charbon. N'oubliez pas que Husserl, à la fin de sa vie, parle de la valeur. Ça, c'est le second Husserl. Hein. Alors, il reprend cette question-là. Max Scheler est très pris dans la philosophie des valeurs, l'axiologie des valeurs, hein, ce qu'on appelle l'axiologie. L'axiologie des valeurs. L'axiologie des valeurs, c'est comprendre justement qu'il y a quelque chose qui dépasse au point de vue psychologique et d'un autre ordre. Alors, je crois que l'axiologie des valeurs qui commence à naître avec le second Husserl et qui naît avec Max Scheler met très en lumière la question des valeurs, c'est une manière de réintroduire dans une perspective idéaliste la finalité. La finalité étant perdue, on essaie de retrouver la finalité. Et comment retrouve-t-on la finalité? On la retrouve par la philosophie des valeurs. C'est ça l'intérêt. Oui. C'est tout un problème très délicat, mais qui est intéressant et qui est très intéressant avec la philosophie contemporaine. C'est d'essayer de comprendre le lien entre la finalité et la valeur. Je crois personnellement, parce que j'ai un petit peu étudié ce problème, parce que ça m'intéressait beaucoup, c'est quand même très intéressant de regarder l'axiologie moderne. L'axiologie moderne, c'est le problème des valeurs. C'est ça qu'on appelle l'axiologie. C'est le problème des valeurs. Alors, c'est très intéressant de voir comment une philosophie idéaliste, ayant perdu complètement le sens de la finalité, grâce à l'intentionnalité, redécouvre le problème des valeurs. Et je crois que le problème des valeurs, c'est d'essayer de réintroduire à l'intérieur de l'intentionnalité une finalité. Parce que c'est toujours un peu subjectif, les valeurs. Hein. C'est toujours un peu subjectif et c'est lié donc au problème de l'intentionnalité. Là, c'est un problème à étudier. Hein. C'est difficile, le problème des valeurs. Mais c'est intéressant de voir ici, vous voyez que de fait, on arrive à poser l'être même de la personne par le point de vue de la valeur. Bon et méchant sont des valeurs de personne. Quand vous dites cette personne est bonne, cette personne est méchante. Bon et méchant sont des valeurs de personne, c'est-à-dire des valeurs qui affectent immédiatement la personne même. Et toute valeur, y compris toutes les valeurs réelles possibles, ainsi que toutes les valeurs appartenant à des communautés et à des structures organiques impersonnelles, est subordonnée aux valeurs de la personne. La valeur de la personne elle-même est la valeur des valeurs. Donc, condition sine qua non pour qu'il existe la valeur. La valeur n'existe qu'en raison de la personne. Vous voyez ? Vous rejoignez ce point de vue la conscience de l'intentionnalité. La personne n'existe que dans la mesure où la valeur apparaît. Et donc la personne, c'est la valeur de la valeur, c'est le support de la valeur, ce qui donne, ce qui permet à la valeur d'apparaître. C'est juste, je crois qu'il n'y a de valeur qu'au niveau de la personne. Et ceci, c'est pour essayer de comprendre toujours conscience de l'intentionnalité de la finalité. Redécouvrir à l'intérieur de l'intentionnalité de la finalité, le problème de la valeur. Et alors à ce moment-là, on retrouve le problème de la personne. Mais c'est compliqué, hein, comme structure. C'est très beau, c'est une recherche. Vous voyez, c'est une recherche à l'intérieur d'une position idéaliste, retrouver la finalité et la personne. Nous disons immédiatement, l'éthique nous donne le sens de la finalité, et la philosophie première nous donne le sens de la substance et de l'acte. Alors, nous le disons très vite, peut-être trop vite, par rapport à ces pauvres chercheurs, mais qui sont dans la mélasse de l'idéalisme, et qui, dans la mélasse de l'idéalisme, essaie par tous les moyens, c'est comme quelqu'un qui sombre, alors il essaie par tous les moyens de redécouvrir ce que c'est que la personne. On sent très bien qu'on ne peut pas identifier la personne à la psychologie, et c'est déjà très beau, il y a quelque chose de plus, on va dépasser le point de vue psychologique, dépasser alors la conscience 2, qu'est-ce que c'est que cette conscience 2? C'est l'orientation fondamentale, l'intentionnalité vis-à-vis du sens. Et alors, à l'intérieur de cette intention fondamentale et cette finalité, on redécouvre le problème des valeurs. Et alors, on dit la personne, c'est la valeur des valeurs. Alors, dire la personne, c'est la valeur des valeurs. Dire que la personne, c'est la valeur des valeurs, c'est dire que la personne, c'est la condition sine qua non de toute éthique. Parce que l'éthique repose sur la valeur. Regardez l'essai de Maritain à propos de l'éthique. Quand Maritain essaie d'introduire dans sa philosophie éthique le problème des valeurs, à côté des finalités, je ne crois pas que c'est tout à fait adroit. Je crois que c'est coller deux perspectives l'une à côté de l'autre. Je crois qu'il vaut mieux essayer de comprendre que le problème des valeurs, c'est à l'intérieur de l'intentionnalité idéaliste, redécouvrir le problème de la finalité. Je vous salue, l'année de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres.